Arnaud Boutéon, bonjour. Merci d'être avec nous à notre studio de Paris pour la dernière émission de la saison.
Bonjour, chers amis de Radio Maria. Très, très, très heureux de faire ce dernier sprint avec vous. Quelques jours avant le commencement des Jeux Olympiques, il y a une ébullition, il y a une action de grâce. Et puis, on est aussi dans l'action de grâce parce qu'en cette fin d'année, il y a beaucoup de champions d'athlètes du Christ qui sont reconnus, qui sont célébrés pour servir, pour donner leur vie pour le Christ. Je sors d'une ordination, de l'ordination de Jason. Le sport, c'est un échange de dons. On redonne au Seigneur tout ce qu'il nous offre. Et voilà, quand on voit les champions sur le podium qui élèvent la coupe, et ben c'est un geste, c'est une porte qui s'ouvre, mais ce n'est pas la coupe du salut. Le sport, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, est un chemin merveilleux de transformation intérieure. Quand on creuse, quand on travaille, quand on laboure notre humanité à l'école du sport, eh bien, nous sommes convaincus qu'une porte s'ouvre. Une porte s'ouvre dans cette découverte de notre finitude et qui nous conduit aussi vers l'infini. Et Saint Jean-Paul II parlait du sport en invoquant un signe des temps. Finalement, c'est quoi un signe des temps ? Comme s'il y avait un besoin, une attente venue du peuple, venue du monde, que le sport pourrait combler pour le meilleur, mais aussi parfois pour le pire. Le besoin rejoint notre incarnation, notre personne dans sa dignité infinie. Même si nous sommes finis et nous éprouvons notre finitude dans le sport, notre dignité, elle, est infinie parce qu'elle est touchée par l'onction de Dieu. L'incarnation chrétienne, et on le célèbre dans le sport, c'est vraiment la célébration, la protection toujours et partout du respect de la dignité de tout homme qui est un champion, qui est un athlète, qui nous enseigne et qui vient nous enseigner la gloire de Dieu dans sa finitude. C'est pour ça qu'avoir un esprit sportif, c'est pas uniquement être sec dans son corps, c'est pas uniquement avoir un cœur de décathlonien, c'est pas crier comme un entraîneur qui arrive à mobiliser par le charisme, ces joueurs sur le banc de touche. Avoir l'esprit sportif, c'est comprendre qu'on peut faire chaque jour un petit pas de plus vers l'avant. L'enjeu du sport, ce n'est pas la performance, ce n'est pas cette victoire terrestre. L'enjeu du sport, c'est le mouvement. C'est ce petit chemin de vie qui fait que chaque jour, on peut essayer non pas d'être le meilleur, mais d'être meilleur. Et finalement, se vider un peu pour se laisser remplir de la force de l'Esprit Saint et comprendre vraiment notre dignité de serviteur du Seigneur pour mieux servir la dignité de ses serviteurs, de ses coéquipiers qu'il a placés sur notre route. C'est pour ça que tous nos coéquipiers, ce sont ces personnes qui peuvent aujourd'hui prioritairement souffrir dans leur dignité. Je pense évidemment à l'embryon, je pense à la personne handicapée. J'ai vu ce film, ce petit truc en plus qui est réjouissant, qui est merveilleux. Je pense à la personne exilée, au criminel, mais aussi au patron, au chômeur, au vieillard et aussi au puissant qui parfois, finalement, dans ses sécurités matérielles, est un petit enfant un peu seul, isolé, qui a peur de perdre. Tout homme est un sanctuaire qu'il s'agit de célébrer en justice et vérité. Et mettons-nous à l'école de Saint Jean-Paul II, celui qu'on appelait l'athlète du Christ, l'athlète de Dieu. Vous savez que c'est une expression de Giono dans L'homme qui plantait les arbres. Il parlait d'Éléazar comme cet athlète de Dieu. Et finalement, cette expression a été reprise et a été un peu vulgarisée pour parler de Saint Jean-Paul II. C'était qui Saint Jean-Paul II ? C'est un homme qui a souffert dans sa famille, une vie de souffrance familiale, une vie de solitude, d'amitié, de théâtre, de gestes, de résistance, de transmission, de défis, de gigantisme aussi, parce qu'on voit ce qui peut être un peu considéré comme une forme d'hubris avec ces grandes messes, avec cette émotion parfois un peu qui frisait l'hystérie quand il se déplaçait, et une vie de service, de pouvoir et surtout à la fin de vulnérabilité. Saint Jean-Paul II a vécu une vie sportive dans l'intelligence de son esprit, l'exaltation de son corps, guidé toujours, chaque jour par la grâce, par ces temps de prière silencieuse qui avaient la première place dans sa vie et qui, tel un skieur avant une piste, finalement lui permettait de guider et de voir les moments par avance, les moments importants de sa journée et de laisser la première place à la Vierge Marie. Cette vie, c'est
achevé au pied de la croix par le témoignage d'un esprit fatigué, d'un esprit usé, d'un corps abîmé, mais d'une âme toujours habitée. En parlant d'un signe des temps, Saint Jean-Paul II a certainement su identifier dans le sport un chemin de dépouillement et de vérité. Et c'est ce qu'on a voulu un peu partager avec vous, chers amis de Radio Maria, pendant ces nombreux temps de partage et d'échange pendant cette année. En creusant, en célébrant notre humanité, le sport travaille plus encore notre identité à travers ce bouillonnement d'émotions et de tensions, d'acceptation du risque, d'acceptation de la souffrance. Le sport vient nous offrir des nuits spirituelles lorsqu'il n'y a plus de ressort, lorsque le corps casse et que l'esprit parfois lâche. L'expérience sportive laboure nos fonds et nos combles. Elle pioche vers l'esprit et la grâce. Elle sait réveiller notre faiblesse et notre fragilité dans une nudité crue. Et parfois nous sommes secs, il n'y a plus rien. C'est alors que nous ne trichons plus. Nous sommes soumis au Créateur, nous sommes affûtés et purifiés. Et nous pouvons nous engager dans un chemin de consentement pour accueillir l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous depuis toute éternité, et enfin lui répondre. Le Christ est donné afin que nous nous donnions. Il a pris l'avantage et il le gardera toujours, il conserve toujours un coup d'avance. Mais il nous le donne, cette liberté de nous exprimer, de poser nous aussi ces gestes d'audace créative. Alors comment vivre cet esprit évangélique et sportif? Les temps nous offrent des enseignants et je me souviens d'une rencontre finalement qui s'est passée à quelques semaines près. La première, c'est avec Tony Estanguet. On en parle beaucoup, Tony Estanguet, parce que c'est le patron du COJO, du comité d'organisation des Jeux Olympiques. C'est un peu lui qui travaille depuis 5 ans. Il est membre du CIO, du Comité International Olympique, et c'est lui qui travaille à l'organisation de ces Jeux Olympiques. Tony Estanguet est multiple médaillé olympique de kayak et c'est une figure emblématique évidemment du sport français. Et je l'avais interrogé quelques jours avant Michael Lonsdal, qui est décédé, qui nous a quittés, un acteur franco-britannique unique par sa présence physique, ses rôles intérieurs et sa voix surtout qui venait d'outre-tombe, une voix vraiment rocailleuse, spirituelle et avec une douceur aussi d'enfant. Et très étonnamment, les deux réponses de Tony et de Michael finalement s'accordaient. Quel est le carburant de leur art ? Et ils disaient de concert que c'était un mouvement en 3 temps. Le premier temps, ils le disaient, c'est l'humilité de travailler avec rigueur. Ils reconnaissaient tous les deux, l'obéissance à des maîtres et la répétition de l'effort sans relâche, dans l'ombre de l'entraînement. C'est ici qu'on y gagne les compétitions, disait Yannick Noah, l'ombre de l'entraînement. C'est aussi le secret de notre chambre quand nous nous mettons en présence de Dieu. En faisant résonner en soi les fameux vers de Boileau, « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. » Il y a une humilité devant le geste. La préparation du champion s'inscrit dans un cadre. Il se soumet à des protocoles d'échauffement. Les exercices spirituels, c'est un peu une variation de séquences avec des espaces, une progression graduée. On parle des exercices spirituels de Saint-Ignace, de plusieurs stades aussi dans la progression spirituelle. Rien ne se fait au hasard. On muscle sa volonté comme on muscle son jeu pour préparer la suite. Le deuxième mouvement, après l'humilité de ce travail avec rigueur et persévérance, il apparaît toujours à l'issue du premier mouvement. Après cette épuisante soumission à l'apprentissage, on va voir clore progressivement des intuitions, des fulgurances. Toutes ces intuitions, ces fulgurances, elles proviennent de la connaissance que nous avons de notre personne, de notre histoire, lorsque notre volonté et notre corps s'accordent, lorsque nous intériorisons ce que nous captons à l'extérieur, qui vient mystérieusement rejoindre notre histoire. Et c'est alors là que le geste va jaillir, spontanément. Ce geste juste qui est le produit fini du sport, disait Saint Jean-Paul II. Ce geste, il est notre identité propre, il est notre style propre. Il est exécuté sans même se regarder, ni se comparer. Ce n'est pas une technique que l'on reproduit. Il vient de nous-mêmes, c'est un acte créateur. Poser le geste juste, c'est accepter d'être traversé par quelque chose qui nous dépasse. C'est un ajustement entre le geste et l'intuition, entre le réel et l'idée. Le sportif et le comédien ne sont plus des artisans, ni des techniciens qui répètent une technique, qui déploient un savoir-faire. Ils deviennent réellement des artistes. Ils deviennent réellement, à l'image de Dieu, des créateurs. Et le troisième mouvement sur lequel il s'accordait, après l'humilité et après cette humilité devant le geste qui surgit de notre personne, le troisième mouvement, c'est davantage un état. En des instants précis, les sportifs, ils en parlent souvent, parlent comme les mystiques d'un état de grâce. C'est celui de la joie profonde. Ces deux êtres d'exception, Tony Estanguet et Michael Lonsdale, ils parlaient d'un même cœur. Ils évoquaient cette joie qui emplit le cœur. Parce que cette joie, elle naît du consentement, elle naît d'un lâcher-prise. La joie, c'est un peu le stade ultime des élus, c'est un fruit de l'Esprit-Saint aussi. Et la joie, elle vient confirmer que nous sommes alignés, nous sommes orientés, c'est-à-dire tournés vers l'Orient. Et l'Orient, c'est quoi? C'est le soleil naissant, c'est la résurrection, c'est ce Seigneur qui fait en nous chaque chose nouvelle. Des religieuses contemplatives parlaient souvent de confirmatour divin. Artisan des corps, je me souviens d'une phrase du chorégraphe Maurice Béjart qui disait que la seule issue dans le monde actuel, c'est non la privation, mais c'est la joie dans le dépouillement. C'est cette joie profonde qui naît d'un mouvement d'ascèse, de renoncement, de souffrance consentie pour un but supérieur. Cette joie, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une dilatation du cœur, alors même parfois que le cœur souffre ou que le corps a souffert. Nous sentons que nous sommes unifiés, traversés par un élan intérieur. La joie profonde de l'effort physique qui est un portail vers une réalité plus absolue encore. Et Mère Teresa de Calcutta disait une chose intéressante qui ne doit jamais nous quitter. La gaieté est le meilleur moyen de prêcher le christianisme. Quand il gagna les JO, je me souviens du 100 mètres nage libre, le nageur français Alain Bernard, il affirmait qu'il ne s'était jamais senti si pleinement humain, dans cette joie indicible dans laquelle il ne pouvait pas mettre de mots. Quiconque s'est trouvé dans la situation de lutter dans son corps, le conduisant à piocher au fond de ses entrailles pour rechercher du courage, sait ce que signifie cette joie profonde, cette complétude de vie. Elle survit aussi parfois quand on frôle la mort. Cité par l'écrivain Sylvain Faure, Saint-Exupéry a trouvé les mêmes mots pour célébrer cet état d'esprit, cet état de vie. Saint-Exupéry disait la chose suivante, « C'est comme si ma vie me devenait à chaque seconde plus sensible. Je vis, je suis vivant, je suis encore vivant, je suis toujours vivant. Je ne suis qu'une source de vie. L'ivresse de la vie me gagne. » Et je le répète, cette ivresse de la vie, cette joie profonde, elle peut naître alors que nous sommes peut-être amoindris par un corps en souffrance. Et je repense à une personne que j'avais rencontrée, un diacre qui était préfet, qui s'appelait Monsieur Parisot et qui avait un élan de vie, un élan d'énergie très très fort. Et il disait, je passe ma vie à défoncer des portes, portée par cette énergie vivante et vitale et aussi portée par cette liberté intérieure que lui donnaient ces temps de prière et cette cohabitation avec le Seigneur dans sa vie. Cette joie, elle naît de la souffrance, de la privation, de l'effort. C'est une joie qui ne se décrète pas. C'est la joie du champion qui marque dans le temps additionnel. C'est la joie du coureur qui achève son marathon. C'est la joie d'un esprit libéré, transformé par l'effort, dopé par son propre corps transformé. C'est la joie d'accéder à un avant-goût de l'au-delà, léger de la souffrance et du poids, libre des regards. Elle est l'éclair d'un corps glorieux aérien, c'est un goût du ciel. Et saint Augustin parlait de ces hommes traversés par ces sons de jubilation qui produisent des sentiments que la parole ne peut exprimer. Et hier, j'étais à Meaux avec trois ordinations sacerdotales, trois ordinations diaconales, et avec ce double mouvement de fraternité et d'étreinte des prêtres entre eux, après l'imposition des mains et après que les prêtres aient revêtu cette chasuble, on sent une joie profonde, une joie indicible. On voyait ces visages des nouveaux ordonnants dilatés. Et je pense que voilà, ça vient achever et clore un parcours d'ascèse, d'effort, parfois de solitude. Et ils ont le sentiment maintenant d'être frères pour servir. Et comment dire Il y avait une puissance des corps avant ces bénédictions finales qui était extrêmement forte. On sentait une unité d'une équipe qui était là parce qu'on accueillait des nouveaux joueurs et parce qu'on savait que le meilleur était à venir. Et il y avait aussi cette humilité devant le rite, ce rite qui convoque notre corps, notre intelligence et notre cœur. Et puis il y a eu ces chants de louanges merveilleux. Il y avait lors de cette messe hier plusieurs athlètes qui vont concourir aux Jeux Olympiques. On était autour de Jason, athlète de haut niveau, judoka, qui est devenu prêtre pour l'éternité. Et à la fin de la messe, alors qu'on était plusieurs à faire la queue pour être béni par l'abbé Jason, nouveau prêtre, Jason à un moment s'est écarté et il est allé bénir une personne qui était sur un fauteuil roulant. Cette personne avait le regard un peu fixe et au moment où Jason l'a béni, avec toute cette puissance de son nouveau sacerdoce, cette personne en souffrance a serré les poings et on l'a vu se concentrer et à la fin il a desserré les poings, il y a eu un sourire merveilleux qui a irradié son visage. Et on repense dans cette joie au fameux texte du mémorial de Pascal. Âgé de 31 ans, Pascal c'était une forme d'homme universel, mathématicien, philosophe, d'une intelligence fulgurante. Âgé de 31 ans, il exprime sa nouvelle filiation, il est comme saisi. On imagine le souffle court transporté par l'émotion. Voilà ce qu'on retrouve, vous savez, dans son manteau cousu. Il disait la chose suivante. Feu, certitude, sentiment, joie, paix, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nom des philosophes et des savants, Dieu de Jésus-Christ. Il ne se trouve que parmi les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine, joie, 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 pleurs de joie. Et le sport aspire l'athlète dans ce cycle de joie. Le joueur de tennis Sébastien Grosjean a dit « J'ai remarqué que chaque fois que je jouais dans la joie, la victoire était régulièrement au bout. Jouer au sens enfantin du terme me permettait d'être relâché sur le terrain et de faire abstraction du score et de l'enjeu. La joie ne vient pas de nulle part, elle s'enfante. » Il parlait de ce jeu enfantin. On repense à Bernanos, dont nous fêtons l'anniversaire, là, ce besoin de retrouver cette vie intérieure, de retrouver cet esprit d'enfance, cette joie qui se conquiert. Dans les vestiaires d'un célèbre stade anglais avant les matchs, les joueurs devaient passer devant les portraits des anciennes gloires du club avant d'entrer sur la pelouse et de s'offrir finalement à l'adversité de pouvoir se révéler. Ils affrontaient une dernière pancarte, une immense pancarte. Sur cette pancarte était écrit, et on en parle souvent ensemble sur cette antenne, « Do you want to be remembered ?» C'est un dialogue avec l'histoire. « Voulez-vous que l'on se souvienne de vous ?» Les joueurs sont plongés dans ce combat de l'intériorité. C'est le moment opportun, le kairos, ce moment choisi pour choisir. C'est comme si nous, chrétiens, avant d'attaquer nos journées, de tenter d'essayer de poser nos gestes justes, nous avions à affronter ce couloir de portraits de saints illustres qui nous ont précédés. Dans le sport américain, on parle de Hall of Fame, ces grands champions de la sainteté qui nous ont devancés. Ils étaient comme nous, ils étaient avant nous. Si seulement nous commencions à vouloir les suivre avant de les imiter. Et nous avons le choix. La liste des coéquipiers de la sainteté, elle est immense. Saint François d'Assise, moi je serai Saint Maximilien Kolbe, moi je serai Don Bosco, et moi je serai Carlo Acutis. Faire de notre vie une vie de sport, avec tous ces grands élans qui nous transportent, mais aussi cette humilité du quotidien. Le pape Benoît XVI le disait souvent, nous ne sommes pas faits pour le confort, nous sommes faits pour la grandeur. Et François, successeur, nous renvoie souvent à la sobriété d'une densification au quotidien. La vie sportive, c'est une vie de choix et d'équilibre. Le sport est toujours une tension. C'est un effort raisonné entre le risque et le confort, une quête vers ce geste juste. C'est le juste foulé entre les haies, cette distance adaptée entre justice et vérité. L'esprit sportif, comme dans la vie spirituelle, c'est une quête de la médiété. C'est la simplicité dans l'engagement stable et constant. Cette frugalité, le pape François en parle beaucoup, c'est un signe des temps aussi. Alors que les réseaux sociaux nous excitent, les algorithmes nous bouleversent. Réussir à rester en retrait, pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux intérioriser et pour mieux convoquer cette joie pour mieux servir. L'athlète, il a cette audace de se dépasser, mais jamais sans se regarder. Il ne s'agit pas de surjouer, juste de s'aligner entre sa parole, ses pensées et ses actes. C'est ce qu'on appelle la congruence, la cohérence. Est-ce que je vis ce que je dis? Est-ce que je dis ce que je vis? Dans notre vie relationnelle, c'est un équilibre subtil qui se retrouve dans la juste distance avec notre prochain. Et je le dis d'autant plus qu'on sort d'une période dans laquelle on n'est pas totalement extrait non plus, où on a pu voir des gestes de prédation, des gestes indélicats, des gestes de contrôle, des abus spirituels. Quelle est cette juste distance avec notre prochain, avec notre coéquipier et avec la personne que nous sommes là pour servir et que cette personne qui est là aussi pour nous enseigner dans son histoire, dans ce qu'elle vit. Cette quête du geste juste, ni hautain, ni intrusif, Jacques de Bourbon-Busset l'évoquait dans des lignes assez inspirées que je vais vous partager. Je cite Jacques de Bourbon-Busset, le poète. « Tout le problème est de trouver avec l'autre la distance juste. Si on se tient trop près, on risque de l'étouffer ou de le paralyser. Si on se tient trop loin, on risque de le perdre de vue et de le perdre tout court. Si on prend l'habitude de la distance juste, les relations avec les autres sont simplifiées et améliorées. On évite à la fois la familiarité excessive et l'indifférence. Respecter la distance juste n'est pas une chose aisée. Elle demande de la perspicacité, de la patience et de l'imagination. Elle est sans cesse à reprendre et n'est jamais terminée. La médiété, cette juste distance, cet équilibre entre les vertus, ce n'est pas être médiocre ou manquer d'ambition. Dans le juste milieu, il faut davantage viser le juste que le milieu. Le centre de la cible, au bon moment, s'inspirer. La vie de sport, elle est dense. Elle est toujours relation. Le soir de notre vie, c'est la fin d'une compétition. Nous y aurons aimé. Nous y aurons péché. Nous y aurons transmis. Nous y aurons souffert. Et nous y aurons appris par la souffrance. Cette capacité à demander au Christ de nous rejoindre au pied de la croix dans la souffrance. Quand on éprouve notre finitude et qu'on crie vers l'infini de sa présence. Souvenons-nous chaque fois que nous allons mourir. Tempus fugit, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Il ne s'agit pas de se mettre face à la mort de façon morbide, mais afin de densifier davantage notre vie pour essayer de purifier davantage nos gestes, les rendre plus droits, plus enfantins, et à l'heure de notre mort. Quand on est dans le temps additionnel, on joue de façon peut-être plus libérée, mais de façon peut-être plus concentrée. Hier, je lisais la prière sacerdotale au moment de l'ordination de Jason, et on évoquait que nous étions dans la fin des temps. C'est quand le souffle se fait plus court, quand le corps nous lâche, que nous percevons mieux ces relations qui nous entourent. L'autre, ce coéquipier, ce prochain, n'est jamais un instrument. Il est mon prochain. Mon corps est souvent un poids, mais il reste toujours cette respiration pénible quand on est sec, quand on est fatigué, quand on est là. C'est cet esprit encore ardent qui lutte et ce cœur qui aime et qui doute. Le sportif, c'est celui aussi qui, dans ses moments d'angoisse de nuit, peut savoir qu'il est comme au pied de la croix. Sur la montagne du Golgotha, le lieu du crâne, il y a les deux larrons qui entourent le Christ. Les deux larrons, ils sont exhibés. Et c'est étonnant, c'est comme si leur ombre dessinait le podium olympique. Sur la plus haute marche, il y a le Christ qui est déjà vainqueur. Il est couronné d'une couronne d'épines, mais c'est une grande ironie de l'histoire. Souvenons-nous que les épines ont des roses. Le Christ, il est couronné, il est le plus haut. Et a priori, ce n'est pas un couronnement aux yeux des hommes, c'est une mise à mort. Et les larrons l'entourent, ils savent, eux, pourquoi ils sont là. Ils connaissent leurs sinistres méfaits, ils savent l'innocence de celui qui est en haut, au milieu. Ils sont comme les gardes de son corps innocent, comme des gardes du corps. Et nous, finalement, dans notre combat pour cette médiété, notre déséquilibre entre le bien et le mal, nous sommes successivement un de ces larrons. Mais la question, c'est la suivante. Lequel voulons-nous être ? Nous sommes empêtrés dans nos péchés, nos contradictions, nos limites, et le Christ nous rejoint. Il est à nos côtés, il nous relève. Et c'est alors qu'un des larrons, dans un dernier aveu, il reconnaît le Christ, dismas. Dans un ultime mouvement, il adhère comme attiré par la vérité, comme sanctifié par la sainteté. Il se déporte vers le Christ, comme un sportif se déporte vers la ligne d'arrivée, le buste en avant. Prenant une ultime respiration, comme Saint-Pierre plongeant, nageant vers le Christ après avoir couru flanqué de gens à pleines enjambées vers le tombeau vide. Le larron, il nomme et il confesse Jésus. Il le couronne sur le trône de gloire, car déjà il n'est plus au Golgotha. Par sa confession, il a souhaité hâter le royaume de Dieu, il a accepté d'être aimé. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Pas demain, aujourd'hui, ici et maintenant. » C'est ainsi que le bon larron devient le premier saint, le premier champion dans son dernier souffle. Dans le temps additionnel, il reconnaît la royauté du Christ. Et le Christ lui ouvre la porte du paradis. Il l'entraîne à sa suite. C'est pour ça que l'expérience de la souffrance, l'expérience de la finitude corporelle, nous ouvre la porte pour suivre le Christ. Et nous sommes dans une période, chers auditeurs, délicate. On voit comme une amplification, une accélération de toutes les tensions, et même au sein de l'Église. Mais cette période, c'est une apocalypse, une période de révélation finalement, qui doit nous conduire à éprouver peut-être encore davantage notre finitude et à laisser davantage de place au Christ dans notre vie, mais à croire aussi davantage aux merveilles que le Seigneur peut faire à travers nous. C'est pour ça qu'il faut, on le retrouve dans l'esprit sportif, retrouver aussi cette vertu de magnanimité, c'est-à-dire avoir de l'ambition pour soi, pour la sainteté qui nous traverse, voir grand, large, profond. La puissance anthropologique du sport, et on en a parlé, ça fait 3 ans que j'en parle avec vous sur cette antenne, nous sommes à quelques semaines des Jeux Olympiques, il va se passer de grandes et belles choses. À partir du 19 juillet, il y aura cette messe et cet appel à la trêve olympique pour laisser le Seigneur, le Prince de la Paix, régner en nos cœurs. La puissance anthropologique du sport conduit l'humanité à une route qui bien vite se sépare en deux. Il a cette voie du Christ escarpée, une voie de croix, de foi, et on l'évoquait tout à l'heure, une voie de joie. Cette route, elle est râpeuse, elle est sinueuse, mais elle est aussi un chemin de joie, nous le croyons, nous l'avons vécu, nous le vivons, des personnes en sont témoins autour de nous. C'est celle d'une humanité qui connaît sa finitude, qui transforme le monde uniquement parce qu'elle se laisse transformer. Cette humanité sportive, cette humanité en mouvement, elle unit, elle s'oublie, elle se donne, elle se dépasse pour la gloire d'un Dieu incarné qui l'a rejointe dans cette humanité. Et puis, à côté de ça, il y a cette voie de l'homme mue par la tentation de la gloire, tendue vers le progrès, au-delà de l'homme, mais pour l'homme. Ce chemin, c'est celui d'une démesure babélienne construite autour d'une humanité augmentée, par la foi en sa propre démesure, un orgueil aussi, un melon énorme, la célébration d'une puissance vitale ordonnée à sa propre fin. Il y a comme un match, finalement, à travers ces deux voies, cette opposition. Dostoïevski et Nietzsche. Les jésuites français Henri de Lubac, ils commentaient l'affrontement en ces termes. Ces deux hommes ont vu se scinder en deux le chemin qui part de l'homme, et tandis que l'un devait céder à la séduction de la voie qui prétend mener l'homme, devenu Dieu, au surhomme, l'autre s'est engagé sur le chemin au bout duquel on trouve le Dieu fait homme. La foi chrétienne, elle vient sublimer l'humanité merveilleuse célébrée par le sport. Dans cette foi en l'incarnation d'un Dieu fait homme par amour, offert dans sa vulnérabilité à une humanité déboussolée, elle bouleverse le terrain de jeu et renverse l'ordre établi. L'économie de la foi chrétienne n'est pas celle du monde. Le christianisme, il convoque notre personne, il l'invite à s'élever dans l'acceptation de notre faiblesse. Il vient nous propulser dans une autre dimension qui nous transforme par le don de nous-mêmes. Cette bascule, c'est une métanoïa, une transformation de soi pour partager le trésor de l'humanité qui est celui d'être en se donnant. Et tout ceci, le sport le pressant. Le sport ouvre la porte. On arrive au bout du chemin, les amis. Le sport, il l'exprime avec ses mots, avec ses émotions. Il le vit non dans la théorie de l'idée, mais dans la réalité de l'action incarnée, avec épuisement, dans la souffrance, mais avec audace et avec joie. Il y a ce saut qualitatif du bon dans la foi qui est l'abandon de nos propres forces. Face à notre finitude mortelle, le sport nous dit que nous sommes déjà face à face avec le Créateur. Encore faut-il le vouloir. Dieu, tu es grand, et nous terminons cette course olympique qui nous conduit vers le Christ avec notre humanité blessée, mais volontaire de sportifs qui avançons sur ce terrain boueux d'humanité. Nous y voyons la volonté habitée par la grâce, la discipline remplacée par l'amour sans retour, l'adversité vaincue par la sainteté, la compétition balayée par la communion. Dans le sport, je me dépasse, et dans la foi, je me laisse dépasser par le Christ qui ouvre la voie tel un pisteur. Je suis à chaque instant l'athlète de ma vie, dans l'exercice plein et souverain de ma liberté, qui est la preuve de son amour divin. Je me sais appelé à ma propre transformation par sa grâce. Je boite et je suis appelé, et j'avance pas à pas avec ma carcasse. Et c'est parce que je boite que je suis appelé, pauvre et bienheureux larron. Et on termine ce sprint par cette ultime clameur avec Dostoïevski dans Crime et Châtiment. Je cite Dostoïevski: « Et il rendra justice à chacun, et il pardonnera les bons comme les méchants, et les sages comme les humbles. Et quand il en aura fini avec les autres, alors sa parole s'élèvera vers nous. Sortez ! Il dira à votre tour : sortez ! Vous les petits pochards, vous les très faibles, sortez ! Vous qui vivez dans la fange. Et là, nous tous, nous sortirons sans avoir honte et nous nous lèverons. Et il dira: porc que vous êtes, à l'image de la bête et de son sceau, mais vous aussi, venez à moi. Et les très sages alors diront: oui, ils diront, les raisonnables, Seigneur, ceux-là, pourquoi les accueillir? Et il dira: si je les reçois, vous les très sages, si je les reçois, vous les raisonnables, c'est que personne d'entre eux ne se croyait digne d'être reçu. Et il tendra vers nous ses mains, et nous, nous tomberons, et nous pleurerons, et nous comprendrons tout. Alors oui, nous comprendrons tout, et tout le monde comprendra. Ô mon Dieu, que votre règne arrive. Magnifique clameur de Dostoïevski. Le Seigneur est avec nous. Et la vie sportive, voilà, c'est ça, c'est ce pas en avant, c'est cette humilité, ce mouvement, jamais la performance, jamais cette volonté d'écraser les autres, ça c'est du marketing. Ça c'est vouloir nourrir les foules avec de l'incertitude, c'est vouloir faire un carburant médiatique. Il y a un moment où le sport, avec le regard de la foi, en comprenant la complexité, la beauté de notre finitude humaine, cette permixio, ce combat entre le bien et le mal qui nous traverse, ce chemin de vie ou ce chemin de mort, ce chemin que nous avons à choisir avec notre volonté, avec notre intelligence, avec la grâce du Seigneur, parce que nous devons travailler, mais il y a un moment donné où nous mettons à genoux et nous demandons au Seigneur ce discernement pour éclairer notre conscience et choisir le bon chemin. Et je voudrais lire avec vous, pour terminer, une très belle prière des disciples du Christ, une prière écrite par le père Alexandre Maine. Le père Alexandre Maine est un prêtre orthodoxe qui était une grande figure de l'orthodoxie russe contemporaine. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il a parlé à la télévision russe et il créait des ponts pour conduire ses contemporains au Christ en période de guerre, de combat, de conflit, d'incompréhension, d'ombre. on peut invoquer la figure du père Alexandre Maine qui a été mystérieusement assassiné à coups de hache, sauvagement, en 1990. Et le père Alexandre Maine a écrit un petit manuel pratique de prière dans lequel il invitait, il avait une grande carcasse, c'est un type costaud qui avait du coffre comme ça, une certaine autorité, vous savez, autoritas, oct, c'est cette augmentation, qu'est-ce qui fait qu'on s'augmente. Et je vais vous lire cette très belle prière des disciples du Christ. Les disciples du Christ, c'est quoi alors qu'on parle du sport? C'est les coéquipiers du Christ, c'est ceux qui choisissent de porter son maillot. Nous sommes baptisés prêtres, prophètes et rois. Le Christ, c'est notre entraîneur, c'est aussi un joueur parce qu'il est devant nous, il est à notre droite, à notre gauche. Je repense à la prière de Saint Patrick. Christ devant moi, Christ derrière moi, Christ sous moi, Christ à ma droite, Christ à ma gauche, il est là. Et il nous montre le chemin. Les disciples du Christ, c'est ceux qui, alors qu'on peut, je revoyais récemment ce feuilleton, cette série The Chosen, on voit cette bande de frères, une beaucoup de liberté, beaucoup de gratuité, de désordre aussi humain dans leur humanité entre ces disciples du Christ, des histoires qui sont fracassées, des histoires qui sont différentes, des histoires qui sont complémentaires, mais un but partagé. Ils ouvrent leur cœur, il y a une forme de légèreté, et puis ils acceptent cet amour du Christ. Je crois que c'est ça, c'est accepter l'amour du Christ. Être disciple du Christ, c'est vouloir avancer. On avance en suivant un phare, mais on avance aussi à la bougie, pas après pas. C'est le mouvement, cette spiration. L'Esprit Saint nous donne chaque jour de faire toute chose nouvelle. Il met en nous des intuitions, des gestes bons, des gestes justes. Et puis souvent, ce que le Seigneur sème en nous, par paresse, on l'enterre. Le père Didon, qui a fondé les Jeux Olympiques avec Coubertin, évoquait la paresse qui, vient censurer tout ce que la Providence dépose en nous. La paresse de la rencontre, ne pas vouloir rencontrer, donc on se fige dans des préjugés. Puis la paresse de consacrer 1 minute, 2 minutes, 10 minutes de temps pour se déconnecter des réseaux, déconnecter du bavardage, pour se laisser remplir de la parole de Dieu. Voilà cette prière des disciples du Christ. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu nous as révélé le Père Céleste pour faire de nous tes disciples. Tu as promis de donner la paix à nos âmes, mais tu ne veux pas de serviteurs négligents. Donne-nous la force de monter la garde et de veiller. Puissions-nous être fidèles envers toi seul. Apprends-nous à toujours agir devant ta face. Fais de nous tes enfants. Donne-nous la force d'accomplir ta volonté et tes préceptes. Apprends-nous à discerner l'essentiel dans la vie, l'unique nécessaire. Aide-nous à nous affranchir du péché, du désœuvrement, de la mollesse de l'esprit. Que tout ce qui est beau et bon dans le monde nous rappelle ta personne. Que le mal dans le monde nous serve d'avertissement. Puissions-nous voir dans les pécheurs le miroir de nos transgressions. Apprends-nous à considérer comme frères ceux qui pensent différemment de nous, qui ont une autre foi ou ne sont pas croyants. Accorde-nous le souvenir de la brièveté de la vie, pour que la mémoire de la mort nous stimule au labeur et au service. Procure-nous la capacité de pardonner, d'aimer et de donner. Apprends-nous à vivre dans la prière. Accorde-nous de participer dès maintenant à ton royaume. Apprends-nous à haïr le péché et non le pécheur. Donne-nous des forces pour témoigner de toi. Ne nous laisse pas dans la vanité, la mesquinerie, le vide. Sois pour nous l'alpha et l'oméga, dans cette vie et dans l'éternité. Devenons tes disciples. Amen. Et c'est ainsi, chers amis auditeurs de Radio Maria, chers amis sportifs, chers amis de Christ, que s'achève ce compagnonnage avec vous. Je vous retrouverai l'année prochaine à l'antenne de Radio Maria pour un autre format d'émission. En tout cas, je vous invite vraiment de tout cœur à vivre ces Jeux Olympiques dans un esprit évangélique, d'émerveillement devant tous ces gestes justes qui vont être posés par ces champions qui ont traversé des moments de nuit, des moments de doute, des moments de souffrance. Vous savez que ils sont dans une période de préparation, d'ascèse, de renoncement. Ils ne sont pas seuls, ils ont leur famille autour d'eux. Prions pour que tous ces champions, dans cette épreuve qui va les révéler, finalement soient un peu labourés et que des portes puissent s'ouvrir pour que dans la souffrance, dans la jubilation, dans cette joie indicible que nous évoquions ensemble, ils puissent discerner une petite étincelle qui vient du Seigneur, qu'ils puissent louer et reconnaître que cette joie, elle vient d'ailleurs. Cette joie qui habite leur cœur, elle vient du Seigneur qui a mis en eux tant de talents, tant de mérites. Prions pour que toutes les personnes qui seront mobilisées pour ces Jeux Olympiques, je pense aux 40 aumôniers qui seront dans le village olympique, puissent avoir une joie réellement contagieuse pour toucher les âmes, les cœurs, les corps aussi par des moments de jubilation, des grands hugs fraternels, que ces Jeux Olympiques soient des moments de saine compétition dans lesquels on se frottera les uns aux autres. Vous savez, il y a une phrase du livre des Proverbes qui dit « Comme le fer s'aiguise avec le fer, l'homme s'aiguise face à son prochain. Il s'aiguise pour se révéler. » Que nous comprenions que ces enjeux, finalement, ne sont qu'une porte. Une porte pour comprendre que nous sommes là sur Terre, non pas pour célébrer un ego, non pas pour poser des gestes de prédation, des gestes d'hubris, des gestes de division, mais pour vivre profondément de ces moments de communion, de charité, en posant ces gestes justes, ajustés, à bonne distance avec notre prochain, et surtout en étant, comme nous y appelle Alexandre Maine, fondamentalement, des disciples du Christ. Nous sommes dans l'équipe du Seigneur, disait un jour Benoît XVI en parlant avec ses frères cardinaux dans une période un peu difficile. Il disait « Nous sommes dans l'équipe du Seigneur et donc dans l'équipe gagnante. Le Seigneur a déjà gagné. » Et dans cette équipe gagnante, rendons grâce pour les grandes amitiés qui nous unissent. Le Seigneur a déjà gagné et le pape Benoît XVI, je me souviens, avec une envolée joyeuse de cette joie de l'enfance, il disait « Levons nos verres, nous sommes des frères, levons nos verres ». Et le sport, voilà, c'est cette incarnation, ce service, ce geste juste et fondamentalement qui nous conduit aux noces, à la rencontre, à la communion. Il ne fait qu'ouvrir la porte vers une réalité qui nous dépasse, qui était avant nous, qui sera après nous. Seigneur, que ton règne vienne.
Amen. Un grand merci, Arnaud Boutet, en tout cas, de tout ce que vous avez offert durant cette saison à nos auditeurs. Et vous l'avez dit, eh bien, nous vous retrouverons dans un autre format la saison prochaine, à la nouvelle année. Chers auditeurs, c'était notre émission Les Jeux Olympiques et la foi avec Arnaud Boutet. Vous pourrez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.